Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour Gaspard, bonjour à tous et bienvenue dans vos animaux. Alors aujourd'hui, si vous souffrez d'une peur absolument incontrôlable des chiens, nous allons vous aider à trouver des solutions pour gérer votre phobie. N'hésitez pas à nous appeler, à témoigner si vous êtes dans ce cas de figure, 0826 300 300. Et puis dans notre rubrique à l'état sauvage, il sera question du festival de l'oiseau et de la nature. Ça se passe en Baie-de-Somme. Enfin, nous vous ferons découvrir une discipline équestre très en vogue, peut-être assez peu connue malheureusement, mais on va remédier à tout cela dans vos animaux, c'est la voltige équestre. Voilà le programme pour cette semaine, 0826 300 300, vous le savez, on vous attend au standard de Sud Radio et on démarre tout de suite avec vous Gaspard et le journal des animaux.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et alors là, vous m'épatez ce matin puisque vous avez trouvé une étude qui nous révèle que les propriétaires de chiens seraient plus heureux que ceux qui ont des chats. Mais c'est quoi cette étude, Gaspard ?
Eh bien, pourtant moins nombreux que leurs compères qui miaulent, 36% des propriétaires de chiens se disent très heureux contre 18% pour les maîtres de chats. C'est en tout cas le résultat du travail du centre de recherche NORC de l'université de Chicago aux États-Unis qui recueille depuis maintenant plusieurs décennies un grand nombre de données sur le mode de vie des Américains. La cause serait liée à la relation différente entre un maître et son chien et un maître et son chat. L'étude montre que 76% des propriétaires de chiens chercheront à jouer avec leur animal contre 65% pour les propriétaires de chats. Autre chiffre fort, ils sont 63% à chercher du réconfort auprès de leur chien contre 51% auprès d'un chat. En revanche, le sentiment d'appartenance reste important, que ce soit pour les propriétaires de chiens ou de chats qui considèrent respectivement à 93 et 83% leur animal comme un membre un part entière de leur famille.
C'est d'ailleurs aussi vrai en France, hein, les animaux de compagnie font partie de nos familles, de nos foyers et on en est très heureux bien sûr dans vos animaux. Deuxième nouvelle cette semaine, c'est la Norvège qui a annoncé mercredi qu'elle allait interdire les élevages d'animaux à fourrure d'ici 2025. Excellente nouvelle.
Une bonne nouvelle, Natacha, dont ferait bien de s'inspirer la France où l'on compte une dizaine d'entreprises dans lesquelles sont élevés des animaux spécifiquement pour leur fourrure. Alors ça va du ringondin au viseau en passant par le lapin. Pourtant, 86% des Français interrogés veulent la fermeture de ces entreprises où, on le sait, les conditions d'élevage sont atroces. Si le marché de la fourrure s'est réduit depuis de nombreuses années, il a tendance à reprendre des couleurs, notamment du côté des jeunes. La fondation 30 millions d'amis a lancé une pétition qui a recueilli plus de 300 000 signatures pour demander l'interdiction de ces fermes. Et pourtant, ce n'est pas un sujet qui a l'air d'inquiéter plus que ça le gouvernement.
Et puis, la fausse fourrure, ça marche très bien, c'est très beau et ça évite de tuer des animaux pour leur pelage. Allez tout de suite, vos animaux et vous, et on va parler de ceux qui souffrent de phobie des animaux et tout particulièrement de la phobie des chiens. Vous allez voir avec un exemple très poignant, celui d'un petit garçon qui s'appelle Noah.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Alors, vous êtes nombreux, bien sûr, vous qui écoutez cette émission, à adorer les animaux. Mais malheureusement, parfois, il y a des gens qui peuvent en avoir peur suite à un traumatisme ou une peur liée à l'enfance. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous donner des conseils très pratiques pour arriver à enrayer cette peur phobique des animaux. Parce que franchement, il n'y a rien de plus plaisant que de vivre en compagnie d'un chien ou d'un chat. Mais quand on est peureux, quand on a vraiment une peur phobique des chiens notamment, ça devient un drame absolu. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Clément Moglin. Bonjour Clément.
Bonjour Natacha.
Clément, vous êtes éducateur canin et nous sommes également en compagnie de Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Sophie, vous êtes la maman d'un petit garçon qui s'appelle Noah.
Oui.
Noah souffrait d'une peur absolument phobique des chiens et Clément et vous-même avez réussi vraiment à l'amener petit à petit à avoir un rapport beaucoup plus agréable avec ses animaux. Noah a quel âge, Sophie ?
Il a 9 ans et demi.
Et d'où lui est venue cette peur absolument incroyable des chiens ?
Alors, ça a commencé à 4 ans. Il a fait une très très grave allergie aux chats, on s'est retrouvé aux urgences. Il a dû suivre une désensibilisation, on avait interdiction de rentrer en contact avec des chats. Il fallait éviter les chiens et les animaux auxquels il était sensible. Donc cette angoisse de refaire cette allergie et d'aller à l'hôpital, je pense, a été un peu un élément déclencheur. Et il avait peur des chiens dans la rue, il les évitait. Et surtout les chiens non tenus en laisse qui lui ont déjà sauté dessus. Et puis au fur et à mesure, cette peur était grandissante. Et quand un chien s'approchait, lui qui est très calme et très posé, pouvait se mettre à courir, voire traverser la rue et se mettre en danger.
Et il n'avait jamais eu d'accident particulier? Il ne s'est jamais fait mordre, par exemple, quand il était tout petit?
Jamais. Quand il était tout petit, un chien lui a sauté dessus. Il devait avoir 2 ans, il est arrivé de nulle part et je pense que ça lui a fait peur, ça aussi.
Et chez vous, vous n'aviez donc pas d'animaux étant donné que Noah était allergique, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Alors, comment avez-vous pris la décision de venir en aide à Noah? Est-ce que c'est lui qui a été demandeur pour essayer justement de conjurer cette peur absolument atroce des animaux et notamment des chiens?
Alors, il a failli avoir un accident. Il était avec sa grand-mère. Il y avait un chien dans une cour qui lui a sauté dessus, a passé la patte à travers la grille. Et Noah a eu une peur immense. Il s'est mis à traverser. Il a failli se faire renverser.
Et c'est ça qui a déclenché la prise en charge de Noah?
C'est ça. Ce jour-là, sa mamie a eu très peur, moi aussi. Et du coup, j'ai dit, ça suffit, maintenant, il faut essayer de vaincre cette phobie. Je pense qu'on peut le guérir. Et puis, lui aussi, il voulait ne plus avoir peur des chiens. Donc, j'ai contacté Clément.
Est-ce que d'autres personnes que Noah, dans votre famille, Sophie, ont une peur panique comme ça des chiens? Est-ce que vous-même, par exemple, vous avez peur des chiens? Et ce qui pourrait expliquer aussi la transmission de cette peur à votre fils?
Non, personne. Moi, j'adore. J'avais un chien et avant d'avoir Noah. Et non, personne n'a de peur phobique comme ça.
Alors Clément, donc je le disais, vous êtes éducateur canin et vous avez travaillé, vous travaillez encore d'ailleurs avec Noah et avec sa maman Sophie pour faire en sorte que Noah puisse vivre mieux sa relation avec les animaux et en particulier avec les chiens. Comment ça s'est passé quand vous avez rencontré Sophie et Noah? Dans quel état était ce petit garçon?
L'état du petit garçon, il était effectivement un peu, il se posait des questions un peu sur la façon dont on allait pouvoir procéder avec tout ça. Il était demandeur, mais en même temps assez sur la réserve parce que les craintes sont des choses qu'on a du mal à maîtriser. Donc il était en attente, mais un peu en retrait.
Et on va tout de suite partir au standard parce que nous avons une auditrice qui souhaiterait témoigner. Non, on me dit que cette auditrice n'est pas là pour le moment, mais on va la prendre tout à l'heure. Alors, j'aimerais Clément que vous nous expliquiez comment vous avez procédé avec le petit Noah pour justement l'amener petit à petit à entamer une relation avec les animaux et notamment avec les chiens.
Oui, alors la façon dont j'ai procédé, ça a été en tout premier lieu déjà d'établir une relation de confiance entre Noah, les parents et moi-même, parce que je pense que la relation est très très importante pour pouvoir mener un travail de qualité. Donc on a d'abord commencé par simplement se présenter, être à l'écoute aussi de tout ce qu'il avait à dire sur le sujet.
Qu'est-ce qu'il vous expliquait d'ailleurs par rapport à sa peur des chiens?
Alors, il m'a même écrit un petit texte dans lequel il expliquait qu'effectivement il avait très très peur des chiens, qu'il avait même fait quelques cauchemars et que donc du coup il était craintif avec une particularité encore plus forte sur les chihuahuas et les American Staffordshire.
Ah oui, donc les deux extrêmes, non peut-être pas, mais ça. Le chihuahua qui est un tout petit chien qui a plutôt la cote auprès des enfants en règle générale. Et l'American Staff qui, lui, peut faire peur de par la force qu'il a dans sa mâchoire et de par sa musculature. Pourquoi avait-il fait un focus sur ces deux races de chiens qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre?
Alors, je dirais que l'American Staff, c'est probablement par rapport à l'image que la société lui donne aujourd'hui, puisque c'est un chien qui est craint par plusieurs personnes, notamment par sa morphologie, comme vous disiez, sa force et peut-être... l'image qu'on en donne. Le chihuahua, a priori, c'était vraiment présent dans son cauchemar. Alors, je ne saurais pas pourquoi, vous dire pour quelle raison.
Mais il n'a jamais eu de mésaventure avec un chihuahua. C'est vraiment dans son imagination, dans ses cauchemars, que ce petit animal est arrivé.
Oui, effectivement, à ma connaissance, il n'a pas eu d'événement particulier avec chihuahua, à part ce cauchemar.
Et Sophie, est-ce que Noah arrive à verbaliser sa crainte? Est-ce qu'il l'exprime facilement?
Oui, il l'a verbalisé. Maintenant, il n'y a plus de crainte, mais il l'a verbalisé, puis il était d'accord pour faire un travail, pour essayer d'arriver à avoir adopté une attitude aussi qui lui permette de ne pas courir, savoir comment réagir quand un chien s'approche. Et il avait envie de ça. Il
Parce que lui le vivait très mal aussi, j'imagine.
Oui, il avait, ouais, oui. Dès qu'il voyait un chien, on changeait de trottoir souvent.
On marque une courte pause et on se retrouve juste après, toujours pour parler de ces problèmes de phobie vis-à-vis des chiens et pour voir l'exemple de Noah, qui était un exemple qui peut vous servir à vous aussi si vous souffrez de ce problème. À tout de suite.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et ce matin, dans Vos Animaux, nous traitons du problème des personnes qui souffrent vraiment d'une peur absolument phobique des chiens. C'est le cas du petit Noah, le fils de Sophie, qui est là ce matin pour témoigner dans cette émission. Et puis Clément, qui est éducateur canin, qui essaie justement d'accompagner Noah dans sa gestion de cette peur vraiment absolument incontrôlable des chiens. Alors Clément, vous nous expliquiez que au départ, le petit Noah avait peur des chihuahuas, enfin avait fait un focus sur les chihuahuas et sur les American Staff. En réalité, il a peur de tous les chiens. Et petit à petit, vous avez réussi à faire un travail de désensibilisation avec lui.
C'est ça. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, la relation de confiance était d'abord importante à positionner. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à lui présenter notamment Milka, ma chienne, qui m'a beaucoup aidé dans ce travail-là également et qui a été présenté par l'intermédiaire de photos, de vidéos, pour qu'il n'y ait pas encore de contact.
Oui, tout de suite, vous ne l'avez pas mis en relation avec votre chienne, vous y êtes allé par étapes.
Effectivement, et dans les étapes qui étaient très importantes à respecter, c'était le fait que Noah soit prêt. C'est-à-dire que j'ai toujours attendu son feu vert pour passer aux étapes suivantes, mais je le préparais petit à petit aux choses vers lesquelles je souhaitais l'emmener. En lui permettant aussi de conscientiser, de rationaliser les choses, pour mettre peut-être l'émotion un peu de côté. Mais ça a toujours été au rythme de l'enfant et de l'individu. Hein. Ça, c'est très, 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 très important.
Alors, voilà. Je crois, Clément, que vous avez une chaîne Terre-Neuve, c'est bien ça ?
Un bouvier bernois,
pardon. Il me semblait bien que c'était un chien, en tout cas, de grande taille. Comment s'est passée la première vraie mise en relation entre Noah et le bouvier bernois ?
Alors, la première vraie mise en relation a constitué simplement une promenade où Noah a choisi la distance qu'il voulait conserver avec le chien. Le chien était en liberté, mais par contre, Noah restait à distance où lui, il se sentait encore en capacité de gérer ses émotions.
Sophie, oui. Que vous a raconté Noah après cette première séance de travail où il a été mis en situation en compagnie du chien de Clément ?
Il était content.
Il a approché un chien,
ouais. Il a géré sa peur, il n'a pas paniqué. D'abord, il était beaucoup à distance et puis au fur et à mesure, il s'est rapproché. Ouais.
C'était une satisfaction pour lui de voir qu'il était capable justement de gérer ses émotions vis-à-vis de l'animal.
Ah oui, c'était une très grande satisfaction.
Un sujet qui fait réagir Natacha du côté de Montpellier, où Charlène nous appelle. Elle a composé le 0826-300-300. Bonjour Charlène.
Bonjour Charlène.
Oui, bonjour à tous.
Vous aussi, vous avez peur des chiens, Charlène ?
Alors, disons que moi, je n'ai pas peur des chiens. J'ai toujours côtoyé les chiens quand j'étais petite. Mais c'est vrai que j'avais une cousine qui était absolument terrorisée, par exemple, par les chiens. Et quand on allait chez une de mes tantes, une fois, moi, je suis passée, il y avait un gros berger allemand, je suis passée, j'ai même poussé le chien parce qu'il me gênait. Alors que ma cousine qui est arrivée derrière, elle s'est fait morte par le chien parce qu'elle est arrivée toute tétanisée, elle avait peur de ce chien. Et c'est vrai que le chien, du coup, moi, ne m'a rien fait, mais par contre, à elle, il l'a mordu. Et l'autre anecdote que j'avais aussi, j'ai une petite nièce qui était terrorisée par les chiens. Et son père, mon frère, a eu, l'intelligence de lui mettre chez elle un petit chiot berger allemand, dont elle n'avait pas peur, parce qu'au début, même la queue d'un chien, elle en avait peur.
Oui.
Donc, il lui a mis tout petit cette petite boule de poils. Donc là, c'était beaucoup plus facile à gérer. Et ensuite, bien sûr, le chien a énormément grandi, ce qui a lui a permis de gérer ses peurs par rapport aux chiens.
Merci beaucoup, Charlène, pour ce témoignage. témoignage, ça démontre qu'on peut réussir à vaincre sa peur des chiens, mais ça suscite aussi une réaction. Clément, j'aimerais avoir votre opinion. Charlène nous décrit cette situation où elle, enfant, se retrouve vis-à-vis d'un gros chien et il ne se passe rien, et puis sa petite cousine, qui était tétanisée, se fait mordre. Est-ce que le chien sent justement cette peur que l'on peut avoir en nous? Et est-ce que cette peur fait de nous une cible plus forte pour les animaux dans ce cas-là?
Alors, je pense qu'effectivement, le chien est une éponge à émotions, est capable de ressentir un certain nombre d'émotions et de choses vis-à-vis des humains et vis-à-vis de plein d'autres choses dans l'entourage. Mais je ne pense pas que la peur fasse de nous une cible potentielle. C'est-à-dire que le chien, lui aussi, a ses émotions. Il peut également avoir peur, justement. Il peut également ressentir un certain nombre de choses qui le feraient réagir, mais je suis pas convaincu par le fait qu'un individu qui a peur s'expose plus particulièrement à un risque de morsure.
Mais c'est vrai que quand vous avez une réunion de famille, par exemple, et qu'il y a une personne qui n'est pas très à l'aise avec les chiens, on a le sentiment que le chien va systématiquement voir cette personne-là en priorité.
Oui, mais c'est peut-être parce que justement cette personne-là est davantage fixée aussi sur le chien que certaines choses se produisent, mais je ne suis pas certain que c'est lié au fait que l'individu a peur et donc le chien va plus précisément le prendre pour cible. Ça, je pense pas.
On repart au standard puisque nous avons Karine qui souhaitait aussi nous apporter son témoignage. Bonjour Karine.
Bonjour, bonjour.
Alors, est-ce que vous souffrez vous-même, Karine, d'un problème avec les chiens, d'une peur comme ça, phobique, qui vous tétanise quand vous êtes face à un chien?
En règle générale, non, parce que heureusement, dans mon éducation, j'ai été élevée avec des chiens de chasse,
oui.
Des femelles particulièrement, et elles étaient plutôt sympathiques quand même. C'est un chien, elles n'étaient pas dans un chenil.
Vous en gardez un bon souvenir?
Alors, un très bon souvenir en ce qui concerne les chiens en général et surtout les chiens de chasse ne me font pas peur. Mais j'ai eu, dans le village où je vivais, j'avais des amis qui avaient un chien, un berger allemand.
Oui.
Assez volumineux quand même, c'est impressionnant, surtout que moi je devais avoir 6-7 ans, et il a voulu me sauter dessus, j'ai eu très peur, il m'a mordu au bras, et depuis c'est foutu pour moi, hein, les bergers allemands.
Ah, vous faites un focus sur le berger allemand, mais vous n'avez pas peur des autres chiens?
Non, mais berger allemand ou chien d'attaque ou de défense en général, un gabarit, mais tout de suite, instantanément, j'en vois un. Maintenant, j'ai plus de 45 ans. Si je vois un berger allemand, je repense tout de suite à ce moment quand j'étais petite, quoi.
Clément, comment est-ce qu'on peut faire justement quand on est face à un enfant qui s'est fait mordre dans son enfance justement par un chien, pour éviter qu'il ne garde cette peur, ce mauvais souvenir toute sa vie d'adulte?
Alors oui, ça, je dirais que ça arrive même très régulièrement, nos expériences marquent. Il faut effectuer une désensibilisation progressive, petit à petit, toujours au rythme de l'individu. Moi, je pense, en essayant déjà de rationaliser les choses, de faire agir la réflexion plus que l'émotion pour que
la réflexion... C'est pas si facile que ça à faire.
C'est pas si facile. Et je pense par contre aussi ne pas s'enfermer dans cette crainte, en essayant de la dépasser petit à petit, en l'associant à des choses de plus en plus agréables. Voilà, je prends un exemple bête, mais si je donne à cette dame 2000 euros à chaque fois qu'elle va vous croiser du regard un chien de catégorie, peut-être que j'arriverai un peu à changer.
Oui, alors ça va vous coûter cher quand même, Clément.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes d'accord, Karine, hein, pour faire cette désensibilisation avec Clément?
Oui, oui, oui.
Ça n'engage que lui, hein, je vous rassure, ce n'est pas Sud Radio qui fera le chèque.
Mais c'est étrange quand même. J'ai gardé quand même quelque chose qui me... J'ai une marque de respect. J'ai toujours un temps d'attente, même avec tout chien de toute façon. Je vais jamais directement vers lui. Je reste toujours en observation de son comportement primaire, quoi. Enfin, je l'approche pas tout de suite à vouloir le toucher, le prendre, quel que soit le chien, même un tout petit.
C'est plutôt bien d'ailleurs, Clément, de se comporter comme ça vis-à-vis d'un chien qu'on ne connaît pas.
Ah oui, entièrement d'accord avec ça, effectivement, puisque chaque individu est différent, chaque individu a aussi son passé, ses traumatismes, ses réactions propres. Donc c'est plutôt bien d'y aller doucement et de prendre le temps aussi d'analyser la communication que peut effectuer le chien.
Merci Karine, en tout cas, pour votre témoignage. Ah, oui. Et puis pour le chèque de 2 000 €, je vous donnerai les coordonnées de Clément hors antenne, vous vous arrangerez avec lui. Merci d'avoir composé le 0826 300 300. Eh bien écoutez, vous allez embrasser Sophie, votre petit Noah, et le féliciter pour nous, parce que franchement, on est content, vraiment, on est très très heureux pour lui qu'il ait réussi à vaincre sa peur des chiens, parce que ça doit être assez difficile de vivre avec cette peur, parce que forcément les chiens, on en croise partout. Oui. Et puis merci aussi à Clément pour son témoignage et ses conseils précieux. Je pense qu'on pourra réaborder ce sujet, parce que vous avez été très nombreux à composer le 0826 300 300. C'est un sujet qui vous concerne, les chiens il y en a partout, c'est une très bonne chose, c'est très plaisant de vivre à leur côté, mais c'est vrai que lorsqu'on en a peur, eh bien ça devient absolument un enfer. Donc on est là pour essayer aussi d'améliorer la vie des gens qui ont peur des animaux. Allez, courte pause à nouveau et on se retrouve dans quelques minutes pour parler de faune sauvage.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Merci à vous d'écouter vos animaux sur Sud Radio. Alors, au programme de la suite de cette émission, dans notre séquence à l'état sauvage, nous vous emmènerons au Festival de l'oiseau et de la nature. Et puis, focus ce matin sur une discipline équestre assez peu connue, la voltige.
Mais pour l'heure, les questions véto qui vous sont posées, Natacha.
Sud Radio, vos animaux. Question véto.
Et ce matin, c'est Madeleine qu'on accueille sur Sud Radio, qui est une Madeleine qui nous appelle, des Pyrénées-Orientales.
Bonjour Madeleine.
Allô.
Oui, bonjour Madeleine, on vous écoute.
Bonjour, oui, c'est les Pyrénées-Atlantiques ici.
Pyrénées-Atlantiques, vous êtes où exactement, Madeleine?
Je vous écoute tous les samedis, cette émission est très agréable parce que j'adore les animaux et pour moi c'est vraiment une mission que je ne manque jamais le samedi matin.
Eh bien on en est ravis, merci à vous Madeleine. Alors je crois que vous avez une question à me poser, dites-moi.
Oui, j'ai une question à vous poser. J'ai une petite chienne qui a été adoptée par moi depuis 4 ans, une petite chienne qui était une chienne d'élevage qui a été très malheureuse pendant 7 ans. Elle était dans un enclos et a beaucoup souffert. Donc, elle n'avait plus de dents quand je l'ai adoptée. Et
cette plus de dents du
chienne,
tout.
Je suis obligée de lui faire des croquettes écrasées, des croquettes spéciales que le vétérinaire me fournit. Et elle souffre énormément de problèmes digestif. Alors là, je suis obligée de faire très attention. Elle a actuellement, elle a de l'antibiotique, elle a de la cortisone parce qu'elle a des problèmes énormes d'estomac ainsi que de respiration. Alors je demande un conseil, si vous pouviez me dire comment je dois procéder pour continuer à traiter cette bête très difficilement. Elle est très délicate. Je m'en vois énormément.
Oui, je comprends bien qu'effectivement, comment s'appelle votre chienne, Madeleine? Dites-moi.
Elle est là, devant moi.
Comment s'appelle-t-elle?
Comment gentillesse incroyable.
Comment s'appelle-t-elle, Madeleine?
Douchka.
Ah, Douchka. On comprend bien, en vous écoutant, que Douchka n'a pas eu une vie facile. C'est quoi comme chienne? Vous disiez que c'est une chienne d'élevage, donc j'imagine que c'est...
Ils appellent ça des chiens réformés, ils appellent ça. Oui,
c'est donc une chienne de race.
Oui, une petite yorte, très très belle. D'accord. Elle est magnifique, noire et feu, mais elle est vraiment jolie. Elle a donc vécu dans un enclos pendant 7 ans. Elle ne savait presque pas marcher quand je l'ai adoptée. C'est une honte. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des élevages intensifs comme ça, qui après les chiens ne portent plus d'argent, excusez-moi, qui ne rapportent plus. Donc on les abandonne, on les met dans des associations quelconques, parce que là, naturellement, on s'en occupe plus ou moins, et puis se font de l'argent.
On est bien d'accord avec vous, Madeleine, ce type d'élevage qui ne sont absolument pas respectueux du bien-être animal et du devenir de leur chien reproducteur. C'est absolument scandaleux. Alors, comment vous aider par rapport à Douchka? Donc, si j'ai bien compris, Douchka, elle aurait peut-être au moins une dizaine d'années, vu ce que vous m'avez expliqué. Elle a des problèmes de dents, elle a même plus de dents du tout, c'est bien ça?
comment? Ah non, plus de dents, non.
Plus aucune dent.
Donc, les dents, il y en a deux. Je vais deux petites devant pour ne pas que la langue tombe. Parce
d'accord.
Que si ils avaient tout enlevé les deux dents de devant.
Alors, le problème que vous avez avec Douchka, c'est qu'effectivement, l'absence de dents, parce que deux dents, ça ne va pas suffire. Un chien, normalement, a 42 dents. Donc, s'il ne lui en reste plus que deux, ça devient extrêmement compliqué de l'alimenter normalement. Donc, je pense que votre vétérinaire a bien fait de vous proposer de lui donner des croquettes que vous fassiez détremper finalement dans l'eau pour les rendre souples, hein, pour qu'elle puisse les manger sans avoir besoin de croquer puisqu'elle n'en est pas capable. Il faut veiller à lui donner bien sûr des croquettes de grande qualité parce que c'est une chienne qui a été fragilisée de par tout son parcours de vie. Donc il faut vraiment aller de chercher des aliments extrêmement digestibles. Il y a des croquettes fabriquées, soit des croquettes vétérinaires, mais aussi des croquettes que vous allez pouvoir trouver en grande surface spécialisée, qui sont des aliments très digestibles. Et ça, c'est vraiment important pour Douchka. Et vous avez raison, il faut les tremper dans de l'eau chaude, tiède, en gros, une demi-heure avant de lui donner pour que ça en fasse quelque chose d'un peu mou. Les croquettes seront de meilleure qualité que de lui donner des pâtés qui risquent d'être un peu trop grasses pour elle, ce qui ne va pas l'aider par rapport à son état de santé. Mais ce que vous décrivez avec ses problèmes dentaires, c'est que j'imagine que Douchka a dû avoir des gingivites et même peut-être des parodontites, c'est-à-dire une inflammation de l'os de la mâchoire à répétition, ce qui l'a amené à perdre ses dents. Donc forcément, derrière, bah, y a des traitements antibiotiques, y a de la cortisone pour essayer de limiter la douleur qu'elle peut ressentir. Mais tout ça, ce n'est pas très bon pour le tube digestif. Donc il faut arriver à trouver un compromis entre la gestion de l'infection et la gestion de la douleur et les effets secondaires de ces médicaments qui sont absolument inévitables. Donc malheureusement, Madeleine, vous allez être confrontée à cette gestion qui est compliquée. Seul l'appui de votre vétérinaire en permanence va vous permettre de savoir à quel moment il faut impérativement arrêter notamment les corticoïdes et les antibiotiques, et puis à quel moment c'est indispensable de lui en donner pour éviter justement une infection trop importante. Voilà, donc je vous ai fait une réponse qui est un peu une réponse de Normand, parce qu'il n'y a pas de solution évidente dans ce cas de figure, Madeleine. Voilà, on vous embrasse Madeleine, et puis merci de nous suivre tous les samedis matins. Merci également d'avoir composé le 0826 300 300. Allez, tout de suite à l'état sauvage, on va partir en baie de Somme.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Nous sommes maintenant en ligne avec Marie-Agnès Bosch. Bonjour Marie-Agnès.
Bonjour.
Alors, vous participez à l'organisation du 29e Festival de l'Oiseau et de la Nature. Ça va démarrer dimanche.
Oui.
C'est, je crois, jusqu'au 22 avril.
Oui.
C'est un festival qui est devenu vraiment un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la nature. Ça se passe en baie de Somme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit précisément?
Alors, comme son titre l'indique, effectivement, on va parler d'oiseaux et de nature sauvage. Et c'est vraiment l'occasion de découvrir la baie de Somme sous différents angles, au niveau de la faune, de la flore, de la nature en général. Et pour ça, on utilise différents supports, on va dire. Donc, il y a du documentaire animalier qui est présent au Théâtre d'Abbeville, également à Crécy, au cinéma Le Cyrano. Des expositions photos qui sont très présentes sur la côte, en baie de Somme, donc à Cailleux, à Saint-Valery, au Crotoy, et puis surtout des animations aussi pour les enfants qui sont là plutôt sur Abbeville, et après des sorties nature, et là on a tout un panel de sorties nature pour tous les goûts, pour différents niveaux. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir toute la richesse naturelle de notre région. Donc, avec bien sûr l'estuaire de la baie de Somme, avec le massif du Nerf, la forêt de Crécy, les falaises, les marais. Et là, on ira forcément avec un guide qui est passionné, qui pourra vous faire découvrir la nature autrement. Pour les personnes qui sont très connaisseuses et d'autres qui le sont moins. Donc, c'est vraiment grand public. Et on peut y aller de différentes manières. au niveau de ses sorties, à pied, à cheval, à vélo et en pirogue, pourquoi pas. Donc voilà un programme bien complet.
Ça donne envie à vous écouter. On a envie de partir avec vous pour faire ces excursions en Baie-de-Somme. C'est vrai que cette région de France est extrêmement riche d'un point de vue naturel. Il y a plein de choses à découvrir. Alors, comme cette émission est consacrée aux animaux, dites-nous un petit peu quels sont les animaux que l'on peut découvrir dans cette magnifique Baie-de-Somme.
Alors, bien évidemment, les oiseaux sont très présents en Baie-de-Somme étant une escale aussi lors de la migration de printemps et d'automne. Donc on a vraiment une multitude d'oiseaux que l'on peut observer. C'est pas toujours facile d'observer les oiseaux. C'est pour ça qu'on encourage vraiment à venir avec ses jumelles, avec sa longue vue et d'être en compagnie d'un guide pour faire ses sorties.
Comment on fait d'ailleurs pour participer à des sorties nature en compagnie d'un guide? Il faut s'inscrire,
Où il faut s'inscrire. Alors on s'inscrit soit directement sur le site du Festival de l'Oiseau, www.festival-6oiseau-nature.com, ou alors si on veut un petit conseil aussi, on peut nous appeler au 03 22 24 02 02. On sera un plaisir de vous renseigner, de vous orienter en fonction de ce que vous voulez voir.
Et alors, vous nous avez cité les oiseaux. Oui. On sait qu'il y a énormément d'oiseaux à découvrir dans cette région, surtout en cette période de l'année, plus particulièrement.
Mais on a aussi des mammifères. Et voilà. Ça, vous le savez. Alors, ce sont nos mammifères vedettes de la Baie-de-Somme. Donc, on a des phoques vomarins et des phoques gris que l'on pourra bien sûr observer à l'occasion du festival. Donc, toujours avec un guide pour ne pas les déranger, parce que au mois de juin, souvent, ils ont mis bas. Il faut vraiment respecter une distance de sécurité pour ne pas séparer la mère du petit. Et c'est vraiment de pouvoir découvrir l'espèce, de voir comment elle vit, comment elle s'est installée en Baie-de-Somme, et de pouvoir les observer à la jumelle ou même à l'œil nu, parce que parfois on peut les voir d'assez près quand même. Mais je dirais qu'il y a une distance de sécurité à respecter qui est à peu près 300 mètres. Et ça, il faut vraiment s'y tenir. Mais ils ont vraiment des petites bouilles trop, trop mignonnes, et c'est toujours un régal de les voir en baie. Et après, il y a aussi une espèce alors tout à fait atypique qui sont les mouflons. Et les mouflons, ils ont été réintroduits il y a plusieurs années dans le domaine du Marcantaire. Et on organise également des sorties que l'on a appelées à la rencontre des mouflons, donc à Saint-Quentin-en-Tourmont. C'est le domaine privé qui est juste à côté du parc du Marcantaire. Et ces mouflons, qui ressemblent à des moutons, on peut les voir assez facilement au cours de cette sortie.
Eh bien, merci beaucoup, Marie-Agnès Bosch. Je rappelle que le 29e Festival de l'Oiseau et de la Nature démarre dimanche et jusqu'au 22 avril.
Il démarre samedi 13 et jusqu'au lundi de Pâques.
D'aujourd'hui jusqu'au lundi de Pâques. Un numéro de téléphone que je rappelle, le 03 22 24 02 02. Si vous voulez vous inscrire ou avoir plus d'informations sur tout ce qui va se passer en Baie-de-Somme, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir, notamment en famille. Voilà, on vous invite à vous y rendre, et puis n'hésitez pas à nous faire part après de vos témoignages.
On sera ravis de vous accueillir.
Merci à vous et on vous souhaite un excellent festival.
Eh ben, merci beaucoup.
Petite pause et dans quelques minutes, vous retrouverez à nouveau vos animaux. On parlera voltige.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et vos animaux ce matin s'intéressent à une expression parlée français comme une vache espagnole. Alors Joël, d'où nous vient cette expression ?
On la date du XVIIe siècle. Et en fait, il y a pas mal d'explications, avec certaines fois quelques incohérences entre elles. Vous allez voir, à l'époque, il y avait le mot vasque, V-A-S-C-E, qui désignait un habitant de la région qui se trouve de part et d'autre des Pyrénées, françaises et espagnoles, donc des Basques et des Gascons, et qui avaient leur propre idiome, si vous voulez. Et donc, d'où on disait, à l'époque, parler français comme un Basque espagnol. Et puis, il y avait aussi le mot vaque, tout proche, qui, lui, voulait dire vache. Et donc, on a glissé petit à petit vers l'expression parler français comme une vache espagnole. Alors, il y en a une autre explication assez proche, un petit peu incohérente peut-être, mais les habitants du nord de l'Espagne, l'autre partie donc du nord de l'Espagne, autre que le Pays Basque, voisins de la France, parlaient assez bien notre langue, alors que ceux qui étaient beaucoup plus loin, au sud de l'Espagne, la parlaient mal. Et ceux du nord, pour se moquer un peu, les appelaient Baco. Et Baco, ça voulait dire l'espagnol du sud. Et donc, on aurait eu cette expression qui a glissé, le Baco, qui signifiait, et on avait un mot également qui s'appelait vache, qui voulait dire vache, je veux dire qui était vaco, donc on a baco et vaco, et on a glissé également vers parler comme une vache espagnole. Une autre explication voudrait elle que ce soit une déformation d'une expression occitane qui disait parler comme un gabache espagnol. Et le gabach, c'était un travailleur agricole saisonnier qui venait de l'autre côté des Pyrénées également. Donc, à chaque fois, les Espagnols qui sont les pauvres, là, vraiment mis en cause. Et puis, il y a une quatrième explication qui existe.
Eh ben, dis donc, il y en a des explications autour de cette expression.
Si ouais, ouais, ouais. Donc, à l'époque, le mot vache a été employé, et ce, pendant très longtemps encore, d'une manière péjorative. Vraiment, quand on traitait de vache, grosse vache, pleurait comme une vache, déjà.
Oui, c'est vrai que ça n'a jamais été très flatteur d'être comparé à une vache.
Ça va un peu mieux maintenant, mais bon. Et alors, à l'époque, l'adjectif espagnol aussi. Oui.
C'était péjoratif.
Et alors, c'était comme ça. D'ailleurs, on avait des mots comme payer à l'espagnol, oui, qui voulait dire payer, enfin sans payer, en donnant des coups pour partir. D'accord. Sans payer. Espagnolade pour dire fanfaronnade, etc.
On va se faire des copains ce matin,
oui,
Joël.
Oui, bah oui, mais je suis désolée, c'était comme ça à l'époque. Et l'association des deux, vache et espagnol, renforçait encore le côté négatif du jugement qui était porté à l'époque. Alors, il y aurait même une cinquième explication. Le mot « basse » et non « vache », qui s'est perdu depuis et qui désignait une servante, et en l'occurrence, une servante espagnole qui parlait donc mal le français. Voilà. Bah voilà, c'est,
ouais. Eh bien, dites donc, ouais, extrêmement riche. Voilà. Donc, on ne sait pas précisément d'où vient cette expression, mais on a quand même des pistes sérieuses grâce à vous ce matin. Merci infiniment, Joël. Voilà. Allez, tout de suite, c'est votre histoire. Il va être question de voltige, une discipline équestre assez peu connue, et pourtant, elle mériterait de l'être davantage.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Et ce matin, nous avons choisi de vous parler de voltige car va se courir du 18 au 21 avril prochain la Coupe du Monde de voltige et c'est à Saumur que ça va se passer. Alors pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Clément Taillé. Bonjour Clément.
Bonjour à tous.
Clément, vous allez être le seul représentant tricolore pour la finale de la Coupe du Monde FEI de voltige à Saumur en avril. Et puis, pour nous parler aussi de cette discipline, on reçoit ce matin François Attimon. Bonjour François.
Oui, bonjour. Bonjour.
Alors
à tous.
François, vous êtes conseiller technique national pour la voltige pour la Fédération française d'équitation. Combien y a-t-il de licenciés qui pratiquent la voltige en France ?
Alors aujourd'hui, c'est assez difficile de savoir combien il y a de licenciés précisément, puisqu'on a une licence unique à la Fédération française d'équitation, une licence pratiquant. Donc on a assez peu de visibilité sur le nombre de pratiquants de manière structurée. On l'estime à peu près à 4000 et pour 500-600 compétiteurs.
Ce qui est très peu. Et alors donc Clément, vous allez être le seul représentant tricolore pour cette finale de la Coupe du Monde. Ça fait combien d'années que vous pratiquez la voltige, Clément ?
Alors moi j'ai commencé la voltige en 2000, donc ça fait 19 ans cette année.
Ce n'est pas un métier, vous n'êtes pas cavalier professionnel comme on peut le voir en CSO par exemple. On ne peut pas vivre de la voltige aujourd'hui.
Exactement, ça reste un sport amateur. Ouais.
D'où vous vient cette passion pour la voltige ? Parce que c'est une discipline très particulière, ça vous est venu comment ?
J'ai commencé en faisant du poney, je pense comme presque tous les cavaliers quand j'étais très jeune. Et je pratiquais aussi de la gymnastique à côté. Et un jour, on a vu une représentation de avec sa petite équipe de l'époque, de mon entraîneur avec lequel j'ai commencé et fait toute ma carrière, de Cédric Cotin. Et donc, on s'est dit que c'était faire de la gymnastique sur le dos d'un cheval. Donc, on a trouvé ça intéressant et on a décidé d'y plonger.
François Attimon, comment faites-vous pour recruter les jeunes qui vont concourir comme ça à des niveaux internationaux ?
Écoutez, on a tout un maillage territorial avec dans chaque région des référents, des correspondants régionaux, et puis un travail assez
assez précis de pointe avec, avec tous les entraîneurs, où on a 2-3 fois par an des séminaires d'entraîneurs. On essaye de découvrir comme ça les jeunes talents. Et puis moi-même, je me déplace un petit peu en région pour travailler avec des longeurs, avec des entraîneurs, avec des structures qui me remontent les informations. Et puis évidemment, tous les concours nationaux et internationaux nous servent également de base pour recruter, détecter et puis préparer le futur.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de clubs qui pratiquent la voltige en France ?
Oui, on a une idée assez panoramique, puisque la voltige, c'est également un très bel outil de développement, de mise en selle pour le cavalier. Donc de manière très structurée, avec une équipe de voltige, il y en a peut-être 300-400 maintenant dans les clubs. On a à peu près 8000 clubs en France en équitation. Il y en a énormément qui se servent du support de la voltige pour les scolaires, pour les publics cibles ou simplement pour découvrir une nouvelle forme d'activité.
Qu'est-ce qu'apporte la voltige justement à un cavalier et quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour pratiquer cette discipline quand on veut aller un petit peu plus loin ?
Alors vous savez qu'en équitation, on a 3 fondamentaux, s'équilibrer, avancer, tourner. En voltige, on a 3 fondamentaux également, donc c'est s'équilibrer, se mouvoir et s'exprimer. Donc ouais. Très rapidement, on peut concevoir que s'équilibrer, c'est un fondamental commun entre l'équitation traditionnelle et la voltige. Donc pour répondre plus précisément à votre question, l'avantage manifeste pour le cavalier, c'est de pouvoir avoir un support pour gérer son équilibre, sans s'occuper de la direction et du mouvement en avant, qui est le rôle du longeur. Donc ça peut permettre effectivement de développer ses habiletés d'équilibre, et également de vaincre un petit peu peut-être ses appréhensions sur l'allure du galop, ou de développer tout un tas d'autres sensations, puisque l'équitation, c'est un sport très, très proprioceptif, on a besoin de sentir le cheval. Donc là, on n'a qu'à se concentrer sur son équilibre, et c'est un vrai atout pour développer ses qualités de cavalier.
Alors Clément, vous qui pratiquez la voltige à un très haut niveau, je pense qu'il serait intéressant d'expliquer aux auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément très connaisseurs de cette discipline, que finalement vous allez former un trio. Il y a le cheval, il y a vous, et puis il y a le longeur ou la longeuse aussi. Comment ça marche entre vous trois ?
Alors en fait, le longeur va donner des informations au cheval et moi je vais me servir du cheval pour...
Donc le longeur, pour expliquer à nos auditeurs qui ne connaissent pas la discipline, c'est la personne qui est au centre du cercle et qui tient la longe du cheval.
Voilà, c'est ça.
C'est la personne qui donne les ordres au cheval, c'est pas vous.
C'est exactement ça, voilà, le cheval se réfère au longeur pour effectuer les meilleurs mouvements possibles.
Et le cheval que vous utilisez pour faire de la voltige, j'imagine qu'il doit avoir des aptitudes un peu particulières.
Oui, c'est sûr. Déjà, ça doit être un cheval assez portant et assez porteur, parce qu'on va devoir faire une série de figures sur son dos qui dure entre une minute ou une minute vingt. Et c'est sûr qu'on a besoin déjà d'avoir un cheval qui puisse porter ces figures, parce qu'on va devoir toucher le sol et remonter directement. Et on a surtout besoin d'un cheval qui peut avoir des foulées de galop de bonne qualité, parce que le cheval représente 25% de la note.
Ah, parce que le cheval global est aussi noté, ce n'est pas que le voltigeur de par les figures qu'il réalise.
La foulée du cheval est notée, oui, exactement. Et on a surtout besoin d'avoir une grande confiance dans nos chevaux, parce que c'est un programme d'une minute représente des heures et des heures d'entraînement.
Alors justement, j'allais y venir. À quoi ressemble la vie d'un voltigeur de très haut niveau comme vous ? C'est combien d'heures d'entraînement par semaine, par exemple ?
Alors, par semaine, c'est assez aléatoire. Disons qu'on essaye naturellement de s'entraîner une heure et demie par jour. Après, il faut savoir qu'on est quand même au travail ou à l'université ou à l'école toute la journée, et qu'on essaye de faire le plus, de dégager le plus de temps possible pour faire nos entraînements. Donc que ce soit au sol ou sur le tonneau, ça veut dire qu'on a un outil en bois qui ressemble à peu près à...
Au dos du cheval, tout simplement.
Au dos du cheval, exactement. Et on peut on s'entraîne là-dessus, on s'entraîne au sol avec le gainage, la souplesse, la gymnastique. Et alors ça représente peut-être 95% de notre entraînement. Et ensuite, il y aura le travail à cheval, qui est un temps très, très, très limité par semaine. On va dire que par cheval, surtout si c'est notre cheval de tête et qu'on n'a pas de chevaux de répétition, on va faire à peu près deux temps de galop par entraînement de 4 minutes, 2 fois par semaine. Donc ça fait à peu près 16 minutes par semaine de cheval en tant que tel.
Eh bien, merci à vous, Clément, de nous avoir permis de découvrir cette magnifique discipline. Je vous invite, hein, tous ceux qui ne la connaîtraient pas, à vous rendre à Saumur ou à regarder d'ailleurs les vidéos que vous pouvez trouver sur cette discipline et sur la Coupe du Monde. Un dernier mot très rapide de François Attimon. La chance, quelles sont les chances des Français pour la Coupe du Monde, hein, en équipe ou en individuel? Oui, je sais, voilà. C'est difficile de répondre, mais...
Je ne sais pas si notre super...
Très impatient de la réponse.
Ah, c'est un super risqué. Mais, non, mais c'est sûr, on a des chances. Clément, c'est vrai que sur la partie libre, c'est son point fort. Les imposés, c'est vraiment pas son truc. Et du coup là, c'est que du libre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une très, 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 très belle finale où on a des programmes un peu plus longs que d'habitude qui dureront 1 minute 20 au lieu d'une minute. On va avoir que des très bons voltigeurs. Et Clément, il a toutes ses chances pour gagner ou au moins pour monter sur le podium. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite.
Bon, eh bien, on croise les doigts pour vous, Clément. Bonne chance pour cette Coupe du Monde de voltige. Et puis, merci de nous avoir fait partager votre passion. Allez, c'est la fin de vos animaux. Vous embrasse tous. On vous souhaite bien sûr un excellent week-end. Profitez bien de ce week-end qui s'annonce... on va dire ensoleillé, même s'il ne va pas faire très chaud. Allez, ciao à tous, à la semaine prochaine.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com.